Tov, Bécham Hachem, Nassé, Benassiar, Béchavoua Tov, on est aujourd'hui dimanche 26 du mois de juillet, le 5 du mois de Av. Chez Niskel, Agdil, Torol, Adira, on fera un cours sur un programme que je voulais lancer avec vous, donc on laisse un petit peu tomber pour l'instant nos sages racontes pour parler du sujet principal de cette semaine, la Ardout, l'union au sein du peuple d'Israël, un challenge que Dieu s'est lancé depuis la faute originelle, très très dur à obtenir puisqu'on voit que le peuple d'Israël a eu beaucoup de mal à franchir le cap de la hardoute, dû à un libre arbitre explosif dans chacun de nous et des opinions tout le temps différentes les uns des autres, car dans le service divin, eh bien, il y a plusieurs façons de servir Hachem, et donc l'union de ces divergences d'opinions crée des scissions au sein du peuple d'Israël jusqu'à provoquer des événements tragiques, comme la Gemara dans Maseret Shabbat 17 Amoud Aleph nous parle de la divergence d'opinion entre les élèves de Hillel et les élèves de Shammai qui se sont chamaillés, c'est le cas de le dire, jusqu'à en sortir les épées de leur fourreau et les mettre sous les gorges des élèves d'Hillel en leur disant que s'ils n'acceptaient pas leur opinion, eh bien, ils les tueraient sur place. Waouh ! Événement tragique, historique, mais qui se répétera de façon différente et comme on peut le vivre en 2020 encore aujourd'hui, laïque contre religion en Israël, plusieurs façons de vivre son judaïsme, être juif sans être israélien sans être pour autant religieux, être religieux mais ne pas se sentir israélien, ça explose dans tous les sens. En tout cas, le shiur sera pour l'élévation de l'âme de Beila, Bat Eliezer Yehuda Cohen et Bat Gittel, la maman donc de Yaakov Mordechai de Genève, qui a acheté une série de cours, et ce shiur sera Bezrat Hashem pour l'élévation de son âme et celle de tous les métés Israël, sans exception, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu élève les âmes de tous nos défunts, Refouah Shlema pour tous les malades d'Israël. Et sans plus tarder, quelques mots sur le domaine de la Hardout. Il est beaucoup plus facile de ramener n'importe quelle situation à satisfaction, à plan, que de ramener les enfants d'Israël dans un même endroit. On voit aujourd'hui que les divergences d'opinion sont très très importantes dans tous les domaines. Il y a ceux qui sont sionistes, ceux qui sont pas sionistes, ceux qui sont anti-sionistes. Et bizarrement, ceux dont je parle qui seraient sionistes sont des gens religieux qui étudient le Talmud, qui étudient la Torah depuis des années, fils eux-mêmes de rabbins. Ceux qui sont ni sionistes ni pas sionistes sont aussi des gens qui peuvent être religieux. Et puis vous avez ceux qui sont anti-sionistes et qui, au nom de cette même Torah, de ce même livre, de ces mêmes références, vont te dire « je suis anti-sioniste ». C'est un truc de malade, c'est pas possible. Comment vous pouvez avoir des kippotes et des barbes sur la tête, sur le visage et être tellement opposé? Mais de l'autre côté, c'est pas fini. Vous avez ceux qui ne sont pas religieux, qui ne s'en sentent pas du tout attachés à la terre d'Israël, donc pas sionistes. Et puis ceux qui sont pas du tout religieux, qui vont même lutter contre la Torah, mais attention, qui vont s'attacher à la terre d'Israël, comme si que c'était un culte d'Avodah Zarah, à un point tel qu'on se demande quelles sont leurs références. Alors, quelque part, ils ne veulent pas de la Torah, qui est la seule référence qui légitime notre présence sur la terre d'Israël. De l'autre côté, ils ne veulent pas de cette source de référence sur notre identité ici, mais ils veulent l'identité sans la Torah, avec le drapeau d'Israël. Donc tu as ceux qui ont les kippot strugot, qui vont prôner la gloire de la Torah sur la terre d'Israël, le retour de Tzion, le retour de la nation sur sa terre, et tu auras ces mêmes gens juste en face, israéliens de la même, du même pays, qui ont fait le même service militaire et qui vont prendre le drapeau d'Israël, ce même drapeau, au nom de la liberté d'expression de un peuple sans Torah sur la terre d'Israël. C'est quelque chose d'incroyable, et de qui plus est, ça c'est pour ce domaine-là. Maintenant, si on rentre sur les élèves, par exemple, du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov a eu des dizaines et des dizaines d'élèves qui vont former eux-mêmes des mouvements chassidiques. Les Belz, les Vijnitz, les Breslev par la suite, vous avez les Lubavitch, et la liste est très longue. Et c'est pas qu'il y en a pas un qui est d'accord avec l'autre, ce sont tous les élèves du même Rav, le Baal Shem Tov, mais chacun a pris un couloir pour dévoiler ce que lui a compris de ce maître. Et cela va créer, pas malgré tout, et au-delà de toute compréhension, chacun son rave, chacun ses habits, chacun ses chaussettes blanches, noires, qui montent, qui descendent. Waouh ! Dans les moindres détails, la mahloquette existe, le conflit existe, et l'union est très très difficile à créer. Pourtant, le challenge de la création du monde, c'est justement de créer le Keli. C'est-à-dire que on va prendre cet épisode de la faute originelle quand le serpent est venu faire tomber Adam et Ève tel qu'on comprend au niveau du pshat, premier niveau de compréhension. la morsure du serpent, si vous voulez, l'intrusion du serpent au sein du couple de Adam et Ève, avait pour but la scission. C'est pour cela que le serpent a que deux dents. De chaque côté, il vient séparer, comme c'est marqué de façon magnifique au niveau de la Kabbale, quand tu écris le mot Nachash, tu écris en hébreu le mot Nachash Nun Chet Shin, qui était donc chevauché par le Satan, Shin Tet Nun. Vous avez de chaque côté, donc si vous revoyez les lettres du mot Shin, Nun, Nun, Shin, Satan, Nachash, écrivez-le en hébreu, ça fait dans, dans, Shen, Shen. Et au milieu, vous avez le mot Chet, qui vient du palais. Ainsi donc, avec ces deux dents, si vous préférez, avec ce symbole du serpent, ce que veut le serpent, c'est créer la scission. Il se bat pour unir les forces du mal et il se bat deux fois plus pour diviser les forces du bien, de telle façon à ce que le venin puisse pénétrer l'union de la pensée, de la parole et de l'action, de telle façon à ce qu'il n'y ait non seulement pas d'ardoute, pour que pendant que nous on se dispute, nos ennemis prennent du terrain. Si vous avez compris, la seule façon donc de lutter contre ce que l'on appelle les forces du mal, qu'elles soient au niveau idéologique, philosophique, politique et autres, voire religieux, eh bien, la seule façon d'y arriver, c'est de s'unir. Ça veut dire de refermer les rangs de telle façon à ce que l'ennemi ne puisse pas pénétrer le camp dans lequel nous sommes. C'est pour cela que le Créateur du monde nous a demandé la phrase « Naase v'nishma ». Ça veut dire quoi? Quand il nous a donné la Torah, d'un coup, dans la Torah, on nous spécifie, comme le rappelle Rashi, on s'est retrouvé au pied de la montagne pour recevoir la Torah sous une condition, laquelle « Ish echad belev echad ». Un seul homme avec un seul cœur. C'est-à-dire que ce qui a été le déclenchement du don de la Torah, c'est l'union que le peuple d'Israël était enfin capable de devenir, malgré toutes ces divergences d'opinion, ceux qui voulaient retourner en Égypte, ceux qui voulaient se suicider, ceux qui voulaient se battre, juste avant que la mer ne s'ouvre, et ceux qui voulaient rentrer dans l'océan, ceux qui sont mis à prier. Waouh ! Tellement d'opinions pour si peu de gens. Résultat des courses, la Torah ne pouvait pas être donnée tant que le peuple n'était pas uni, comme le précise Rashi le jour du don de la Torah dans la paracha de Yitro. Pourquoi ? Eh bien, de façon métaphorique, si je devais prendre de l'eau et le verser dans un récipient, si ce récipient est troué, qu'il manque un seul élément, qu'il manque une seule petite particule de cet ustensile, eh bien, l'eau va fuir et tout ce que j'aurais mis dedans, ce n'est qu'une question de temps, finira par disparaître, tomber par terre et rester dans les oubliettes. De la même façon, à partir de quand le peuple d'Israël est capable d'avoir la dimension du Olam Haba, tout Israël à part au monde futur, en hébreu c'est Kol Israël, on retournera dans la notion de ce qu'on appelle le Keli. Qu'est-ce que c'est le Keli? Le Keli, c'est l'ustensile dans lequel repose toute la pureté du peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'on appelle en hébreu un Keli, pour Netilat Yadayim, pour l'ablution des mains, pour se rendre pur. On a besoin de prendre tous les matins, et chaque fois qu'on mange du pain, pour te dire que d'ailleurs, quand tu manges du pain avec quelqu'un, c'est que tu es en paix avec lui, donc je prends le Keli. C'est-à-dire que tu formes un récipient dans lequel Dieu peut reposer. S'il manque un seul, une particule de ce Keli, eh bien le trou qui s'y opère laisse l'eau fuir à l'intérieur, et Al-Pi-Alakha, ce n'est pas un Keli kasher. Ça dépend de comment il le trouve. Aval Keikaron, le peuple d'Israël perd de sa force, perd de son énergie, perd de tout. Et c'est pour ça que tous les matins, dans la prière, quand on dit « Utenu oz l'Elokim », donner de la force à Dieu, comment est-ce que nous, en tant qu'humains minuscules, remplis de molécules, de faiblesses, de chair et d'os, on peut donner de la force à Elokim? C'est de qui on parle. Réponse, c'est que Dieu ne peut exister au sein du peuple d'Israël que quand on est uni. D'où l'importance, je fais une petite parenthèse comme cela, du pays d'Israël. Qu'est-ce que fait le pays d'Israël, malgré le fait qu'on soit un petit peu en conflit les uns contre les autres? Il y a une chose de bien, c'est que pour consolider un keli, il faut le mettre lui-même dans un keli. Dans le cas où il y a des trous, c'est pas grave puisqu'il est dans un keli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est en galoute, on va former des communautés. En aucun cas, on peut être uni en tant que communauté, puisque la communauté d'un tel, la communauté de l'autre pays, une communauté, c'est un keli, mais c'est un petit keli. Donc on ne peut verser qu'un tout petit peu d'eau. Il faudrait amener une grande bassine, dans lequel, même si on rapportait tous les kélis qui auraient des trous, c'est pas grave, puisque la grande bassine les remportera. C'est qui? Les rattrapera. C'est qui? C'est le pays d'Israël. L'importance de devenir une nation, comme l'explique le Rav Kook, c'est que le pays d'Eretz Israël, c'est une bassine dans laquelle, même si on est divisé à l'intérieur, malgré tout, on ne peut pas trop s'échapper. Parce qu'on reste dans des frontières qui nous maintiennent en tant que nation. Et en tant que nation divisée, ce qui est problématique, c'est qu'on peut le payer à l'échelle individuelle. Tandis qu'à l'échelle de communauté, ça peut, chas v'shalom, venir à disparaître, passer des pogroms et ainsi de suite, comme on l'a vu tout au fur et à mesure de l'histoire, où les Cosaques, ou dans les pays d'Afrique du Nord, les communautés pouvaient être massacrées. C'est toute la différence entre la nation juive et la communauté. Ce qu'offre le pays d'Israël, sans rentrer dans le conflit sioniste ou passionniste, je veux simplement expliquer ce que offre le fait de vivre dans le territoire d'Israël, c'est de rentrer dans l'union de la nation. Maintenant, en tant que nation, il faudrait réussir à s'entendre. Ça, c'est encore un autre challenge. C'est encore autre chose. Mais la reine, une des choses que nous demande Hachem, c'est de comprendre que pour s'unir, il faut comprendre qu'on a des rôles différents chacun les uns des autres. Par exemple, le mot Keli s'écrit Kaf, Lamed, Yud. C'est quoi ? Cohen, Lévi et Israël. Et dans la Halakha, on nous apprend qu'un Cohen, ce n'est pas un Lévi. Le Cohen, il a ses lois à lui. Il ne pourra pas se marier avec une femme divorcée, ni une convertie. Mais un Lévi, qui est l'intermédiaire, lui, n'a pas de territoire en Israël. Ben alors quoi, c'est un fantôme ? Non. Lui, il a un autre rôle. Lui, il est la morale des enfants d'Israël. Il va gérer les villes de refuge, dans le cas où une personne aurait tué par inadvertance. Eh bien, il va aller se rééduquer chez le Lévi. Lévi Milchon Livouï, qui veut dire celui qui accompagne la moralité du peuple d'Israël. Et lui montera deuxième à la Torah. Et puis il y a Israël. Si on prend les initiales de Cohen, Lévi, Israël, on retrouve la notion du mot Keli. C'est-à-dire que la seule façon d'être uni, bien, c'est d'accepter que l'autre puisse avoir un autre rôle à jouer que le mien. Et malheureusement, les gens qui sont petits du cerveau, ceux qui sont petits de la pensée, n'acceptent pas que cette idée puisse exister. C'est-à-dire que ce qui peut le plus tuer l'union, c'est de penser que tu dois penser comme moi. Alors qu'au contraire, la diversité de la pensée, justement, est la richesse de l'union. Quand on est capable d'être un avec autant de données, on a créé ce qu'on appelle un cerveau. C'est-à-dire qu'au niveau médical, si tu regardes le cœur, le foie, le rein, les poumons, tout ce qui peut exister, tu verras qu'il n'y a pas trop de conflits à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de rôles à jouer. Il y en a peut-être 3, 4, 5, 6, demande à des médecins. Mais quand tu t'adresses au cerveau, qui fait diriger tout le corps, quand tu vois le nombre de milliards, de trilliards de molécules, de faisceaux, de lieux, de glandes intérieures, il y a une tonne de choses, c'est un univers tellement puissant que c'est impossible à approcher. C'est la complexité la plus absolue du corps humain, le cerveau. Et pourtant, on n'en a qu'un. On a le cerveau de droite, gauche, qu'on appelle Chochma et Bina, mais le cerveau est uni. Et pourtant, pas un côté du cerveau n'est d'accord avec l'autre. Ils vivent dans une parfaite, mais parfaite union. Les cellules se transmettent ce qu'ils ont à se transmettre, mais aucune d'elles ne fait le même travail. Il y en a qui vont transmettre à l'hypothalamus, il y en a qui vont transmettre aux yeux, il y en a qui vont transmettre au cœur les émotions, Alors pourquoi ça marche si fort un cerveau ? Eh bien parce que chacune d'entre elles accepte volontiers le rôle de l'autre. Le problème qu'on a, c'est que malheureusement, quand on parle d'union, dans notre vision des choses à nous, c'est que si par exemple tu es quelqu'un de religieux qui pratique Shabbat, la mitzvot, mais que tu ne partages pas le fait d'être sioniste, alors je te disqualifie. Ou alors que tu es sioniste, alors je te disqualifie. Ou alors que pour toi tu es traditionnaliste mais pas encore investi 100% comme l'était Baba Salé, alors je te disqualifie. Et parce que tu fais des études d'ingénieur, alors je te disqualifie parce que tu ferais mieux d'aller étudier. Ou alors tu ferais mieux d'aller travailler que d'aller étudier. Oh ! Chacun a son tikkun. Une fois, on raconte que le père du Rav Kanievski, le Steipel Erzecher, Tzadik Bekadosh Ibracha, a reçu la visite d'un couple parce que la jeune fille de Bnei Brak exigeait de son futur mari qu'il étudie toute la journée. Alors, ils sont partis voir le Rav Steipler et il lui a posé la question au jeune homme. Il lui a dit, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Il lui a dit, moi, je suis au cheder, j'ai étudié la Torah toute ma vie. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux faire demain ? Il lui dit, mon père a acheté une boutique à Rabbi Akiva, c'est une rue, c'est pas de Rabbi Akiva, et il vend des vêtements de Shabbat, il vend des costumes. Et j'aimerais étudier tous les matins et travailler tous les après-midi pour être non seulement Issachar, mais aussi Zevulun, subvenir à mes propres besoins sans être dépendant des autres, comme le prescrit le Rambam. Et il a demandé à la femme, il lui a dit, et vous, qu'est-ce que vous voulez ? Elle lui a dit, moi, je suis la fille du Rav Intel et je n'ai d'autre but dans ma vie que de me marier avec quelqu'un qui étudie la Torah à l'image de Rabbi Akiva. Moi, je suis un peu comme Rachel Batkalba Savoie. Je veux un mari qui étudie la Torah toute la journée. » Elle lui a dit, « Ce jeune homme vous convient ?» Elle lui a dit, « Franchement, oui. Il a le sourire que je veux, il a l'humour. On est sur le même diapason, juste que je voudrais qu'il étudie plus qu'une demi-journée. » Et là, le Rav Stepler, à la grande surprise générale, alors que la jeune fille était persuadée que ce grand maître de la Torah allait prendre sa défense, lui a dit, « Dites-moi, jeune fille, est-ce que vous savez si le tikkun de cet homme-là, c'est pas d'habiller les gens pour Shabbat ?» Alors elle lui a dit, « Je ne comprends pas. » Il lui a dit, « Sachez que votre futur mari a pour but d'étudier la Torah, mais d'habiller aussi en l'honneur du Shabbat. Ça fait partie de son tikkun. Il n'est pas venu étudier toute la journée. Lui, il est venu étudier juste une demi-journée. Et il devra habiller les gens en l'honneur du Shabbat. Ça fait partie du tikkun de la faute originelle. Tout comme Dieu, à l'entrée de Shabbat, nous a fait des vêtements de peau. De la même façon, lui aussi a pour tikkun d'habiller les gens. Chacun de nous avons des rôles à jouer. Il y a ceux qui doivent étudier toute la journée. On appelle ça des avrechim. Dites-moi, en quoi ça vous dérange que des gens soient assis en train d'étudier le tour, le Shulchan Aruch, devenir des grands rabbins plus tard, décrocher des diplômes de rabbanout, peut-être de devenir Dayan, peut-être de marier des gens, peut-être de faire l'askara de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. En quoi ça dérange? T'aimes pas? T'es pas d'accord? N'aide pas. On va dire que t'en as pas le mérite. Mais pourquoi tu ouvres ta bouche contre eux? En quoi ça te dérange? T'es pas d'accord? Ne fais pas. Va travailler. Et toi, en quoi ça te dérange qu'eux, ils travaillent? Tu veux étudier? Va étudier. Le fait qu'on n'accepte pas l'autre parce qu'il ne nous ressemble pas ou ne partage pas notre idéologie, oui, c'est là qu'est tout le problème. La Torah nous a appris que le peuple d'Israël, ce n'était pas qu'un seul leader pour un peuple. Non. Si vous observez bien la Torah, il y a un président par tribu. Le nasi de sa tribu. Pas simplement cela. Quand on veut être un pays uni, on n'a qu'un seul drapeau. Le peuple d'Israël possède 12 drapeaux différents. C'est pas normal. Quand tu vois 12 drapeaux, c'est qu'en général, tu représentes 12 pays. Non. Midora et la Torah vient nous apprendre que chacune des tribus d'Israël avait un rôle à jouer. Les défenseurs, ceux qui sont à l'armée, ceux qui sont à l'étude, ceux qui ont des territoires, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont des héritiers, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ceci, ceux qui cela. Ensemble, on forme le peuple. C'est un peu comme le corps humain. Des mains, c'est pas des pieds. Des pieds, c'est pas des mains. La tête, c'est pas le cou. Le cou, c'est pas la tête. L'épaule droite, c'est pas l'épaule gauche. Mais chacun est à sa place. Imaginez un petit peu que je vous parle, je déteste ma main gauche. Tiens, donne-moi un couteau, je vais l'assassiner. C'est stupide. Et pourquoi c'est stupide? Eh bien, tout simplement parce que cette main fait partie de moi. Même si je ne l'aime pas, par exemple, je vais tout faire pour la protéger. Pourquoi? Parce que je vais avoir mal si tu fais mal à cette main. Parce qu'elle est reliée à moi. C'est-à-dire que si je ne ressens pas l'autre relié à moi dans son rôle à lui à jouer, pourquoi quand tu manges, tu prends avec la main droite? Pourquoi tu ne manges pas avec la main gauche? Pourquoi quand tu écris, tu prends ta main droite? Pourquoi tu ne prends pas ta main gauche? Réponse très simple, parce que je suis droitier. Alors le gaucher, c'est un handicapé? Non, le gaucher est né gaucher. Tout simplement parce que lui, il a un autre rôle à jouer, parce qu'il exprime quelque chose de différent de toi. Alors nous, on va mettre les tefilines sur le bras gauche, et comme lui est gaucher, il va mettre les tefilines sur le bras droit. Ah, tu ne mets pas les tefilines sur le bras gauche? T'es pas comme moi, je ne t'aime pas. Ma pitom, ma pitom. C'est exactement le contraire. Je viens d'un état de fait où mon judaïsme va correspondre à un travail différent du tien. Une façon de voir le judaïsme différent du tien. Pourquoi? Eh bien parce que moi, je suis un descendant de l'idéologie du Gaon de Vilna. Et l'autre va lui répondre, eh bien moi, je viens de l'idéologie du Baal Shem Tov. Deux idéologies de servir Dieu de façon tout à fait différente. Il est elle qui prétend que nous sommes dans une génération où on doit attendre les dévoilements de la vérité du Mashiach, et donc jusque-là d'être plutôt cool dans les halachot mazekoul, c'est-à-dire plus clément, plus patient. Shamaï dit ma pitam, c'est pas parce qu'il n'y a pas de dévoilement divin encore de façon probante qu'on ne doit pas endurcir les lois. Il est le Shamaï. Sont en marloquette. Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael sont en marloquette. Ainsi que tous les Tanaïm, les Amorim, les Savorim, les Geonim, Rishonim, Acharonim, le Rav Ben Tzion Abashou, le Rav Ovadia Yosef, ils sont en marloquette, mais ils s'aiment. Ils s'aiment et ils s'acceptent. Ils comprennent que l'autre a ses références. Il ne l'insulte pas, il ne le maudit pas, il n'est pas contre lui. Il dit Tov, comme dit le Rav Ovadia Yosef dans ses écrits. Et il y en a aussi qui disent que il n'est pas en train, Chas Veshalom, de dénigrer ni l'un ni l'autre. Il dit simplement, voici mes références à moi. Je vous apporte 80 références qui disent que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Et si le Ben Ishraï dit, le Ravadi avait lu ça, je pense qu'il aurait dit ça, mais il y a du kavod. On a le droit de ne pas être d'accord avec l'autre. On a le droit de dire, mais qu'est-ce que tu vas devenir? On a le droit de dire, mais quel compte tu vas donner à Dieu quand il te posera la question, toi qui travailles du matin au soir, donne-moi tes heures d'études. Et on a le droit de dire à celui qui étudie toute la journée la Torah du matin au soir, mais attends, mais qu'est-ce que tu as donné pour ce pays? Il va te l'expliquer. Mais tu n'as pas le droit de le haïr. Tu as le droit de ne pas le comprendre. Mais tu as surtout le droit de lui demander pourquoi il vit ça comme cela. Alors tu vas dire, tu sais, c'est très simple. Tu vois une main. C'est composé d'une paume et de doigts. C'est ensemble qu'on peut attraper le monde. Moi, je suis la paume, toi, t'es les doigts. En mala, saute les doigts, ça va travailler. Toi, tu as joué le rôle des doigts. Ensemble, avec la paume et les doigts, on peut tenir le monde. Le fait d'étudier la Torah et le fait, par exemple, de travailler, si on était conscient qu'ensemble, cela ne formait qu'une seule main, alors on pourrait attraper le kos, c'est-à-dire la gavia, la coupe de vin, pour faire le kiddush en l'honneur d'Hachem. Parce qu'il faut des constructeurs du monde et il faut ceux qui étudient la Torah. Et c'est ce qu'on dit tous les matins. « Al tikre banaïr et la bonaïr. » Ne lis pas mes enfants, mais lis mes constructeurs. Alors pourquoi c'est marqué dans ce cas-là mes enfants? Parce qu'il y a ceux qui étudient la Torah et il y a ceux qui construisent le monde. Ensemble, nous pouvons régler les choses. Je vous donne un petit exemple pour finir ce premier cours sur la Hardout pour cette semaine qui nous mène malheureusement une fois de plus à Tisha B'Av, à moins qu'on ait le miracle de voir la Géoula cette semaine. Amen. Eh bien, quand on regarde les téfilines, on verra que dans la même famille, Rashi n'est pas d'accord avec son petit-fils, Rabbeinu Tam. Rashi dit que l'ordre des tefilines doit être, dans les quatre compartiments de la tête, placé de telle et telle façon. Vient Rabbeinu Tam et dit non. Il y a deux sdarim sur lesquels je ne suis pas d'accord. Si tu les mets comme ça, Rashi, eh bien, tu trompes le peuple, dit Rabbeinu Tam. C'est le contraire. Il faut déplacer Vayam Shamoa avec. Très bien. Vient Shimushé Rabba. Et il dit, désolé Rashi, désolé Rabbeinu Tam, mais la mesure des téfilines que vous donnez n'est pas conforme à la halakha. Alors je ne comprends pas. Vous n'êtes d'accord sur rien, les rabbinim? Entre vous, vous n'avez pas de hardout. Il dit, non, je vais t'expliquer. Rashi, ce qu'il dit, correspond à un monde qui s'appelle Vavke. C'est-à-dire, Rashi dévoile le monde de la Torah du Pshat, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu sur terre. Donc le seder qu'il donne correspond à ce que lui veut dire. Vient Rabbeinu Tam, qui lui, par contre, voit les téfilines selon Yudke. Waouh, Yud-Ké, Vav-Ké. Qu'est-ce que fait Rabbeinu Tam? Il les place dans un autre ordre qui est plus élevé. C'est pour ça que quand on met les deux ensemble, Rashi et Rabbeinu Tam est au-dessus de Rashi et non pas en dessous de Rashi. Parce qu'ensemble, quand on les met, dit le Harizal, puisque c'est ça, il ou là aujourd'hui, eh bien, on porte Yud-Ké, Vav-Ké. Et c'est une très, très importante mitzvah de mettre Rashi et Rabbeinu Tam. Le Rav Ovadia, il dit, on les met les uns après les autres. Viens chez Moshe Rabba, le Harizal, il dit, on les met quand? On les mettra pour la prière de Mincha. Waouh! Donc à Mincha, on remettrait des tefilines selon le Harizal Ken. On fait la prière de Mincha avec le Talit et des tefilines, celle de Shimushé Rabba. Mais le peuple d'Israël n'a pas pris ce minag. Mais il y a toujours la même question qui se pose. Je ne comprends pas, pour une paire de tefilines, vous êtes tous en marloquette, vous ne pouvez pas vous mettre une fois d'accord, une fois pour toutes. Réponse, non. Tu sais pourquoi on n'a pas de problème? Parce que par contre, il n'y a aucune marloquette sur les tefilines du bras. Aucune. Ni Rashi ne s'oppose à Rabbeinu Tam, ni Rabbeinu Tam ne s'oppose à Shimushé Rabba, ni Shimushé Rabba ne s'oppose à personne. Pour t'enseigner qu'au niveau des idées, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, tu as le droit de me contredire, mais juste à une condition, c'est qu'au niveau du bras, tu sois toujours d'accord pour vivre en paix avec moi. Tant que tu es capable de me serrer la main, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et c'est pour cela que l'ardout est primordial dans le peuple d'Israël. On pense tous différemment les uns des autres. Ceux qui ont rejeté d'une certaine façon, par ignorance, la Torah, te disent « Mais nous, on a donné nos vies pour cette terre. Nous, on a construit ce pays. Vous, qu'est-ce que vous avez fait ?» Eh bien, ils disent « Nous, grâce à l'étude de la Torah, ce pays peut avoir du commerce. Nous sommes protégés parce que la Torah nous le promet. Que si on étudie la Torah sur le Tartaris, alors qu'est-ce qui se passe entre nous ?» C'est comme l'histoire, ça me rappelle l'histoire de l'encre qui était en train de se moquer du roseau. Il lui a dit « Arrête de te vanter, le roseau. Tu crois que c'est toi qui écris l'histoire ?» C'est moi qui l'écris. Essaie d'écrire sur mon encre. Et à ce moment-là, le roseau a répété à l'encre. Il lui a dit, tu sais, si j'étais pas un roseau, peut-être que tu pourrais écrire l'histoire avec ton encre, mais personne n'y comprendrait rien. Le roseau, ce sont ceux qui ont construit ce pays. L'encre, ce sont ceux qui étudient la Torah. Ensemble, quand on trempe le roseau dans l'encre, on peut écrire une histoire qui est bien écrite, qui est nette. Pourquoi ? parce qu'on s'accepte, parce qu'on se rend compte que quand on mélange l'un dans l'autre et qu'on la pose sur la feuille du shalom, alors l'histoire devient très claire et très nette pour tout le monde. Mais si chacun reste dans sa position, alors l'histoire se bloque, elle bug et on n'arrive pas à avancer, ni dans le domaine des yeshivot, ni dans le domaine des élections, ni dans le domaine culturel, cultuel, on est bloqué. Tu ne me ressembles pas, alors tu ne fais pas partie de moi. Automatiquement, c'est du Satan. Le jour où on arrivera, Bezrat Hashem, à comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être juif, mais qu'il y a beaucoup de façons d'être juif. Bien entendu, vous allez me dire, alors dans ce cas-là, alors celui qui est anti-Torah, lui aussi, c'est une façon d'être juif. Oui, il y a eu dans l'histoire des gens qui étaient anti-Torah, des gens qui ont formé justement la préface du christianisme, la préface du réformisme, comme Korach. Oui, il y a eu ces gens-là. Mais la Torah nous a donné la réponse. La seule façon d'avoir la redoute avec eux, dans la Torah, pas moi. La terre s'est ouverte, elle les a avalés. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui la redoute ne peut pas avoir lieu. Parce que toute la redoute dont on parle, ce sont ceux qui, malgré tout, restent reliés au même cerveau de la création du monde. C'est-à-dire, ils servent tous la Torah. Donc, que tu sois comme ceci ou comme cela, ce n'est pas important. Si quelque part, ce que tu fais sert les intérêts du peuple et de la Torah. C'est-à-dire que même une personne qui n'est pas du tout religieuse sert les intérêts du peuple. Est-ce que c'est une mitzvah ? Absolument. Est-ce que c'est une mitzvah de vivre en Israël ? Le Rambam dit « Shakul keneged kol mitzvot sheba Torah ». Ça équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Tant que ce que tu fais permet d'être un des maillons de l'histoire qui permettra d'être un tremplin pour que ton peuple puisse se réunir et s'élever, tu es aussi dans la compétition de ceux qui font partie du peuple. Mais si ton but, c'est d'éloigner cette dimension et de lutter contre la Torah, alors comme c'est marqué dans la Torah, vous le retrancherez du peuple. Mais ça appartient au Sanhedrin, ce n'est pas à nous de décider qui est retranché ou pas retranché du peuple. Mais ce qui est certain, c'est que le but d'Israël, c'est de créer un Keli. Et de comprendre que si même un juif reste un juif, un Kohen, ce n'est pas un Lévi, ce n'est pas un Israël, mais ensemble, nous sommes un Keli. C'est-à-dire que même si on est différents les uns des autres, on a tous un rôle à jouer dans l'entité de recevoir l'ensemble de la Torah et de l'idéologie divine, qui est infinie, à travers plusieurs pensées, tant que, je répète une dernière fois, elle ne va pas à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, des commandements et d'Ivrei Chazal. Parce que vous regarderez, vous remarquerez que de toute tendance confondue, quand l'un n'est pas d'accord avec l'autre, bizarrement, ils ramènent les références du même livre que nous. C'est-à-dire qu'ils comprennent différemment les choses, mais de l'autre côté, ils se battent pour des idéologies. Par exemple, pour finir, ceux qui ne sont pas pour le sionisme, qu'est-ce qu'ils disent ? Vous avez déjà entendu leur thèse où ils crient « ouais, ouais, ouais ». Ils disent « oui, mais le problème qu'il y a, c'est que il faut préserver la Torah. Et que tant qu'il n'y a pas ma chair, c'est le balagan en Israël. On risquerait de perdre notre Torah, de tomber, patati patata. C'est défendable. Il y en a plein qui le pensent. D'accord ? Il y en a plein qui le pensent. Alors comment on peut leur répondre ? Pas shoot. Les Meraglim ont eu la même pensée que vous. Gardez Moshe vivant, préservez la Torah du Sinaï pour ne pas rentrer en Israël. On vient de le lire dans Parchat Devarim. Ador, Ara, Azé. Dieu a dit, mauvaise pensée. Donc, ne pas suivre comme exemple. Pas suivre, puisque l'idéologie des Meraglim était de préserver la Torah en galoute, pour ne pas la perdre en Israël avec « c'est un pays qui est trop dur, il faut faire la guerre, il faut faire ceci, cela ». Très bien. Cette idéologie-là, elle est défendable ? Bien sûr qu'elle est défendable. Bien sûr. Bien sûr qu'elle est défendable. La Torah passe avant tout. Alors, le problème, c'est que même si elle est défensable pour nous, on a vu les résultats de la Torah nous dit « lotov ». Lotov. Cette même Torah que tu veux défendre est celle qui te dit que ce n'est pas une idéologie valable. Pourquoi ? Parce que la Torah a été donnée pour être vécue par Parashat Vayitranan, hein, ça arrive en plein pot, justement, Min HaShamayim, qui te fait comprendre que la Torah a été donnée pour être essentiellement vécue sur ta terre. Et tu la pratiqueras en galoute pour ne pas oublier la terre d'Israël. C'est le but des mitzvot en galoute. C'est Pirush HaDavar. Mais la Chen, malgré tout, alors, il ne veut pas venir, il a sa communauté, il est bien là-bas, va Kacha. Toi, tu vis là, tu es content. Que Dieu les protège et que Dieu les amène dans de meilleures conditions. Pourquoi les snotam ? Pourquoi les haïr ? Pourquoi leur en vouloir ? Chacun a son mérite, chacun a son rôle. Le seul qui peut dire ce qu'il a à dire, Batiftah arrête cette pierre. C'est la terre qui s'est ouverte, mais qui a ouvert la terre ? C'est Dieu. Que Dieu vienne faire le céder, parce que nous, on n'a qu'une seule chose à faire. Notre travail à nous, c'est de chercher à nous unir et de nous trouver du mérite. Le travail d'Hachem, c'est de juger qui doit rentrer dans l'union du peuple d'Israël et qui s'en est exclu. C'est ce qu'on dit à Pessah. Ulfi sheotzi et atzmo min haklal kafar baikar. Qui appelle le racha racha? C'est Dieu lui-même. Parce qu'il s'est retranché du peuple. Nous, à notre petit niveau à nous, c'est de trouver du kafsrout à tout le monde. Que Dieu protège nos juifs de France, qu'il protège nos juifs des États-Unis, les juifs d'Afrique du Nord, là où ils sont au Maroc, partout où ils sont, que Dieu les protège. Notre rôle à nous, en tant qu'humains, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous, on se protège par l'union. Parce que l'union est un bouclier beaucoup plus efficace que la critique, que de cracher sur les autres. Alors bien sûr, des fois, on fait des remontrances, on peut prévenir, on peut mettre en garde sur certaines choses, mais c'est par amour. Mais celui qui viendra dire qui que quoi, dont ou lequel, ça, Kadosh Baruch Hu. Notre but à nous, avant Tisha B'Av, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, il n'y aura pas de Géoula finale tant qu'on ne sera pas unis. Tant qu'on ne sera pas unis. Et ce qui est dommage, c'est que quand on entend les sirènes sonner parce qu'on se fait bombarder du côté de la bande de Gaza, d'un coup, on oublie tous nos différends. D'un coup, on ne voit plus nos indifférences. C'est incroyable, quand on nous fait du mal, combien d'un coup on réalise qu'on n'est qu'un peuple. C'est fou de voir à quel point nos ennemis sont capables de nous rappeler que nous sommes juifs. Quand on a posé la question à Ahmadinejad, vous voulez tuer les religieux en Israël avec la bombe atomique ou vous voulez tuer les laïcs? Il leur a dit, je ne comprends pas la question. Un juif, c'est un juif. Quand on a posé la question à Hitler, quelle sorte de juif il comptait tuer dans son livre Mein Kampf? Il a répondu, tous les juifs. Pourquoi tu ne ferais pas de différence entre celui-là ou celui-là? L'Ashkenaz ou les Séfarades, il a aussi conquis l'Afrique du Nord. Il a aussi emmené des juifs du Maroc, des juifs d'Algérie et surtout des juifs de Tunisie. Comme j'expliquais ce matin, mon père a eu le mérite de se sauver d'un de ses camions. Ouais. Pourquoi tu t'es adressé aux juifs Ashkenaz et aux juifs séfarades? Parce que Hitler ne comprenait pas qu'on pouvait être juif séfarade et Ashkenaz. Lui voyait juste une chose. Que tu sois né au Maroc, que tu sois né en Pologne ou en Russie, c'est la même maguette David. Vous êtes les enfants d'un même père. Vous êtes une seule et unique famille. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est dommage que les nations du monde savent cela. Comme si il y a des voyous qui arrête un juif comme ça pour le dépouiller, mais qui dit « Eh les mecs, arrêtez, ne me faites pas de mal, je suis comme un goy. » Tu crois que ça va les intéresser? Ils vont voir ta Magen David, ils vont voir que t'es juif. Pour eux, t'es juif. Là, à Moscou, vendredi, une rescapée de la Shoah de 90 ans a été sauvagement poignardée par sa... Ozeret ?
Ex-soignante.
Oui. Ex-soignante. Aide-soignante. Aide-soignante, sauvagement poignardée. Elle était juive et pourtant pas spécialement pratiquante. Mais juste, elle était juive. Quand elle a annoncé qu'elle était rescapée de la Shoah, cette aide-soignante l'a frappée de plusieurs coups de couteau dans son corps et peu importe. Celle qui a été fenestrée, qui a été jetée, qui donnait à manger à son voisin sur son palier, qui avait l'habitude de l'accueillir. Pourquoi est-ce qu'il l'a jetée par la fenêtre? Est-ce qu'il a posé des questions? Madame, vous mettez le kissouille, vous allumez les bougies de Shabbat, vous aimez Dieu, vous êtes sioniste? Non. Il a pris cette femme, il l'a jetée par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'elle était juive. C'est dommage que nos ennemis comprennent qu'être juif, c'est faire un, alors que nous qui sommes juives ou juifs n'avons pas compris que nous ne sommes qu'un seul peuple. Baruch Adonai l'olam, amen v'amen. Et on continuera à Bezrat Hashem demain avec Rabbi Yaakov Bouhatsera sur le domaine de l'Ardout. Kol Tov Velitraot Shiur pour l'élévation de l'âme de Beila Bat Eliezer Yehuda Cohen ou Bat Gitel Zichrona Libracha.